résistance et mémoire. Les jeunes Gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, nous sommes Romane et Maïva. Lors de la commémoration de l'opération du Minuit à Pont-Saint-Père, nous avons rencontré Claire Bécard. Elle nous a raconté son histoire et celle de son père, Louis Payas.
Résistant, il s'est engagé comme messager à l'âge de 17 ans à Toulouse, avant de rejoindre plus tard le corps Franc-Pommiès. Et ce n'est que bien plus tard qu'il a pu raconter son expérience de la guerre.
Moi, je m'appelle Claire Bécard et je suis la fille de Louis Payas, qui a fait partie du corps Franc-Pommiès entre 1943 et fin 1944. Il était jeune, il est entré au corps Franc-Pommiès dans l'année de ses 17 ans, printemps 1943. Et au début, il était agent de liaison, c'est-à-dire dans la résistance civile. Il était lycéen à Toulouse et il était ce qu'on appelle agent de liaison, c'est-à-dire qu'il devait porter des courriers d'un point à un autre point. Ça n'était jamais le même endroit, jamais les mêmes personnes, dont il ne connaissait pas les noms, mais simplement des fois des surnoms. Ou bien il y avait un début de phrase et la personne devait terminer la phrase pour remettre ce courrier. Alors comment il faisait pour cacher ce courrier? Il était tout le temps en vélo et il dévissait la selle de son vélo. Il roulait la lettre dans le tube du vélo, il revissait la selle et il passait comme ça les barrages. Il s'est plusieurs fois fait arrêter à des barrages allemands qui fouillaient les sacoches de son vélo, qui trouvaient des cours mais rien d'autre. Et comme il parlait bien allemand, il était toujours très poli. Il disait « Guten Tag, bonjour, comment ça va? Il pleut, il neige, il vente, etc. Il fait très chaud. » Et donc, il ne se méfiait pas. Il a toujours traversé les barrages sans problème. Et il portait ses lettres, voilà, d'un point à un autre. C'était vraiment une responsabilité très ciblée. Et il fallait qu'il en sache le moins possible. De façon à ce que, évidemment, s'il était arrêté, il ne puisse pas donner d'informations trop précieuses. Alors d'abord, il a été recruté par l'aumônier des scouts. Il faisait du scoutisme. Et c'est l'aumônier qui, à un moment, l'a pris à part en lui proposant voilà, cette activité d'agent de liaison, ce qu'il a accepté. Et à partir de juin 1944, il a été véritablement recruté dans une, même un peu avant, avril-mai, le corps Franc-Pommiès savait, le général Pommiès savait qu'un débarquement se préparait et il a commencé une formation à ce moment-là militaire de maniement des armes. Donc, hein. Et à partir de juin 1944, il a fait partie de la brigade Miller qui avait pour fonction, nous a-t-il expliqué, d'essayer de ralentir au maximum les colonnes allemandes qui traversaient la France pour être en renfort par rapport aux unités allemandes qui luttaient contre le débarquement des Alliés. Donc, ils avaient pour mission de ralentir ces colonnes allemandes. Ça, c'était la mission militaire. Et ça, il l'a faite avec la demi-brigade Miller. Et ils ont remonté, ils ont traversé la France. Il a participé à la bataille d'Autun, qui a été assez mémorable et qui a fait véritablement entrer le corps Franc-Pommiès dans les corps d'armée. Ils ont rejoint à ce moment-là les corps d'armée du maréchal Leclerc. Et voilà, et mon père était venu en cours expliquer ça à mes élèves de 3e en français, en cours de français. Et c'est là que j'ai appris tous ces détails, parce qu'il n'en parlait pas, spontanément. C'est là que j'ai su qu'il était facteur à vélo. Il nous a dit qu'il avait été facteur à vélo. Agent de liaison et ensuite petit soldat, si j'ose dire, hein, parce qu'il était jeune, il n'avait que 18 ans. Hein. Et voilà, et en novembre 1944, il était dans les Vosges, il nous a dit qu'il a eu très très froid, il a été légèrement blessé et on lui a proposé de rentrer, de revenir à Toulouse et il a accepté, parce qu'il faut dire qu'il était parti sans prévenir ma grand-mère, qui donc l'a vu disparaître en juin 1944 et qu'il l'a vu revenir fin novembre. Elle ne savait pas s'il était vivant ou pas. Donc il est rentré. Il s'est dit que, comme étant fils unique, ce serait bien qu'il revienne vers elle. Voilà, ça a été sa période de défense pour la France et la liberté.
Comment vous expliquez qu'il n'en ait pas parlé avant, qu'il rencontre vos élèves, par exemple? Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres résistants. Mais qu'est-ce qui empêche la parole de sortir?
Alors, je crois que sa parole n'était pas tant bloquée que ça. Simplement, il considérait, parce qu'on en a reparlé, moi j'ai appris à 27 ans seulement qu'il avait fait de la résistance, parce qu'il avait un copain qui était à la maison et ils ont évoqué des souvenirs. Donc c'est un petit peu par hasard que j'ai appris ça. Mais ensuite, on lui a demandé pourquoi il ne nous l'avait pas dit. Et c'est simplement parce qu'il considérait qu'il avait fait son devoir, tout simplement. Que c'était quelque chose pour lui de normal. Il ne se prenait pas pour un héros du tout. Ce n'était pas vraiment, vraiment pas un vantard. Et donc pour lui, c'était dans la normalité de l'histoire avec un grand H, de son histoire personnelle. Et voilà, et puis comme il n'avait que 18 ans, il n'a pas eu de haute fonction évidemment dans la résistance, il n'a pas fait d'actes plus héroïques que celui des autres. Voilà, donc après, il nous en a parlé quand on a appris, on lui a quand même posé quelques questions. Mais je pense qu'il n'y avait pas tellement de blocage de la parole, c'est simplement que, voilà, il estimait qu'il y en avait tellement d'autres qui avaient fait tellement plus que lui. Que bon, il n'y avait pas de quoi en faire étalage, tout simplement.
Et vous disiez que vous aviez encore.
Alors, les petits souvenirs que j'ai, j'ai retrouvés, du coup, j'ai fouillé. Après cette heure de cours avec mes élèves de 3e, j'ai fouillé carrément. J'ai trouvé des photos que j'ai envoyées à Kevin, l'historien du corps franc-pommiès. J'ai retrouvé son brassard également. Une grenade, deux obus, et je cherche un pistolet allemand dont mon frère m'a parlé, que mon père aurait dérobé au Bibent, place du Capitole, à Toulouse. Ça n'a rien à voir avec le corps franc-pommiès, là c'est juste que, comme disait Arthur Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Il traversait, bon ça n'a rien à voir avec la résistance, mais il traversait la place du Capitole, et il passe devant le Bibent, qui a un sas, je ne sais pas si vous savez, il y a un sas au Bibent. Et il passe devant et il remarque dans ce sas le manteau d'un officier allemand avec un pistolet qui dépasse. Et il dit à son copain, chiche, je prends le pistolet. Il est rentré dans le sas, le copain surveillait, l'officier allemand était avec d'autres et il buvait un verre, tout simplement, c'était en fin de journée. Il a pris le pistolet, il l'a mis dans sa poche et il est rentré chez lui avec ça. Alors, nous, c'est vrai que là, je sais qu'il est dans la maison, je le cherche ardemment, ce pistolet, mais... C'est le pistolet d'un officier allemand. Voilà. Bon, c'est une petite digression par rapport à la résistance.
Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci.
Mais de rien et bravo à vous de faire tout ce travail. Franchement, je vous encourage, c'est bien.
L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch dans le Gers, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur l'opération de minuit. Ce projet autour de la transmission de la mémoire a été accompagné par Sophia Marchesin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance, avec Alexandra Josse de Médias Communs à la réalisation, sous l'égide de leurs professeurs, messieurs Duteil, Guy et Néré, qui ont accompagné le projet tout au long de l'année. L'ensemble des élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ce projet. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.